Alors bonjour à tous et puis bonjour à ceux qui nous écoutent par Zoom. Nous sommes une grande communauté. Dieu n'a pas attendu les moyens Internet pour dire que l'Église, en fait, c'est l'Église universelle dans le monde entier qui se réunit en même temps. Et il y a des multitudes d'églises locales. Et il n'avait pas prévu à l'époque, enfin, il n'avait pas dit à l'époque, mais il l'avait prévu, il le savait déjà, qu'il y aurait des églises virtuelles, et c'est ce qu'on vit actuellement. Donc la parole de Dieu est toujours puissante et toujours actuelle, et nous allons la partager. Vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous ce lieu touristique fameux, le fer à cheval. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, les chutes du Niagara, un des lieux les plus connus d'Amérique du Nord. Il y a quelques années, donc aux chutes du Niagara, voilà. Il y a quelques années, donc la convention baptiste des églises du sud des États-Unis, hein, ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture biblique, hein, c'est le sud des États-Unis, très conservateur, très évangélique, qui vote en général pour les républicains. Hein, ce sont 20 millions de voix que les présidents américains essaient de chasser. D'accord? Mais il y a quelques années, cette convention baptiste a décidé de tenir leur réunion annuelle au chute du Niagara. C'est un peu comme nous, quand on va à Vichy, eh ben, on a le congrès KF, c'est juste une petite différence d'échelle. Nous, on est 350, et eux, ils sont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Je crois qu'ils sont 10 000 à peu près. Alors, pourquoi ils le font là-bas? Parce que, vous voyez, il y a, bien entendu, à côté des chutes, là, il s'est construit toute une batterie d'hôtels, il faut une capacité hôtelière pour accueillir tout ça. Et si vous avez fréquenté les hôtels américains récemment, vous savez, il y a des télés dans toutes les chambres, et quand vous ouvrez la télé, ben, si vous zappez, attention, parce que vous avez les chaînes gratuites, et puis très rapidement, vous arrivez sur une chaîne payante, mais on ne vous prévient pas, et si vous regardez un peu, pouf, le compteur commence à tourner, et une fois que la convention s'est terminée, les hôteliers ont eu la surprise, ils ont fait un point sur l'événement, ils ont eu la surprise de voir que le numéro un des chaînes regardées était des chaînes pornographiques. D'accord ? Convention baptiste, chrétien évangélique, mais nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Vous ne connaissez probablement pas, mais David le connaît, donc il va nous dire.
Je pense Bill Hybels.
Exactement. Donc vous connaissez Bill Hybels parce qu'on a fait des enseignements à partir de son livre, d'accord ? Il y a 3 ans, puis il y a 15 ans, moi j'avais fait aussi un enseignement sur la même chose. Et Bill Hybels, ben, il a fondé une très très grosse église, très connue pour un mouvement de réveil charismatique qui s'appelle Willow Creek. C'est une église d'autant plus connue qu'il n'y a pas longtemps, on a eu ce film Jésus l'Enquête, vous vous souvenez, Lee Strobel, comment il s'est converti, sa femme fréquentait, et lui-même, ont fréquenté cette église de Willow Creek. Donc, grande église, connue, un chrétien, alors il a publié plein d'autres livres que ça. Et Bill Hybels, il y a quelques années, a été pris dans un scandale sexuel à l'âge de 60 et quelques, 70 ans. Hein, ça durait depuis des années et des années. Et pire encore, il y a eu un double scandale parce qu'en fait, les anciens de l'Église, c'est-à-dire le groupe de responsables, étaient au courant et a tout fait pour masquer et étouffer l'affaire. Et finalement, l'affaire est ressortie, les anciens ont démissionné, il y a eu un scandale énorme. Voilà, c'est tout ça pour vous dire, ça permet d'introduire un peu le thème de ce matin. Tout ce dont je viens de parler est résumé par un mot dans la Bible, qui est le mot porneia. D'accord ? Donc porneia, ben, ça a donné plein de termes, dont le terme, bien sûr, pornographie. Et ce mot porneia, on le retrouve souvent dans la Bible. Il est là plus de 25 fois dans le Nouveau Testament, et il est là surtout dans le texte qu'on va étudier ce matin, puisqu'on continue l'étude de l'Épître aux Corinthiens, on en est au chapitre 5. Et dans 1 Corinthiens 5, eh bien, 5 et 6, on retrouve ce terme 5 fois. Et on le retrouve 7 fois dans l'Épître aux Corinthiens. D'accord ? Et oui, ce terme est présent dans la Bible parce que la Bible est un livre pratique. C'est un livre qui permet de tout faire, c'est un couteau suisse. On peut élever des enfants avec la Bible, on peut diriger une entreprise avec la Bible, on peut régler des... Donc ce matin, on va aborder ce thème délicat de porneia, qui est parfois traduit par immoralité sexuelle, impudicité, débauche. Hein, il y a tout un tas de traductions qu'on verra tout à l'heure. Et donc la lettre aux Corinthiens en parle en deux parties en fait. Et une première partie qu'on va voir ce matin au chapitre 5, et prochainement, donc c'est David qui prendra la suite, je crois, il me semble, le chapitre 6, qui est un chapitre cousin, Et finalement, on verra que c'est deux chapitres qui sont liés. Et aujourd'hui, on va aborder cette première partie, on va lire donc ce chapitre 5 qui est finalement court, mais qui est très très dense. C'est un peu un pudding anglais. Il n'y a pas d'anglais chez nous, hein, mais un pudding anglais, c'est assez dense quand même, hein, surtout en général. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5, et on va aborder le thème des désordres dans l'Église. Hein. On verra que cette première partie de l'Épître aux Corinthiens, on a traité plein de thèmes, je résumerai rapidement ça tout à l'heure, mais là on va aborder ce côté désordre dans l'Église, hein, qui nous montre que finalement une Église n'est pas parfaite, et c'est pour ça que Paul est obligé de s'adresser à cette Église. Donc on va lire, alors je vous ai mis la version du second 21, ce qu'on entend généralement dire, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas de manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité, sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement ils vous feraient sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir une relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, et toujours désiré de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, ou de même pas manger avec un tel homme. Et c'est à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur, n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. On a des paroles qui sont quand même assez radicales. Donc, un texte, je vous l'ai dit, qui est dense. On va essayer de simplifier un peu, de le décrypter. Mais avant de voir cela, je voudrais juste faire un petit rappel de contexte, un triple contexte, en fait. Je vous donne le plan qu'on va adopter. Hein. On va voir donc ce triple contexte qui est très important pour comprendre où on en est de la lettre aux Corinthiens et pourquoi Paul aborde ces choses à ce moment-là. Ensuite, je voudrais qu'on voit le thème clé. Parce que moi, je me suis trompé dans le thème clé. En préparant le message, 80% de ma préparation, je me suis trompé. Je pensais qu'en fait, le message parlait d'immoralité sexuelle, mais l'immoralité sexuelle, c'est à projet de moi. Je t'enverrai la patate chaude. Mais j'étais prêt à parler de ça, très honnêtement. Mais vous voyez comme quoi le Saint-Esprit joue, parce que je me dis, à l'avance, on s'est appelé avec Nasser cette semaine, j'ai dit, mais je vais aborder le thème de l'immoralité sexuelle. En fait, non, le texte ne parle pas de ça. Donc, je suis désolé. Mais David, si tu veux, je peux faire chapitre 6.
Je serai absent.
Mais Paul lui a dit, hein, même s'il est absent, il peut juste.
On l'a mis dans le texte.
Voilà, on verra le thème clé. Vous verrez, c'est sûr pas mal. Je me suis trompé à 80%. Comme quoi, franchement, on a besoin d'éclairage du Saint-Esprit. Alors, on va voir ensuite que dit le texte. Et puis, on va essayer d'interpréter. Je vais vous faire 4 remarques pour bien interpréter ce texte, puis on verra des applications. On verra l'importance de ce texte pour les Corinthiens de l'époque, l'importance du texte pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et puis, en conclusion, je vous laisserai 4 questions. D'accord ? Donc, je ne vais pas faire la conclusion, c'est vous qui la ferez, dans votre tête, chez vous. Ok ? Ça va pour ça ? Allez, on y va. Alors, triple contexte, je vous ai dit, premier contexte, c'est le contexte géographique et culturel. Ça se passe à Corinthe, c'est en Grèce. Les Corinthiens sont des païens, d'accord ? C'est pas des juifs. Et ce sont des païens qui sont imprégnés de la culture grecque. Alors ça tombe bien parce que, sans nous en rendre compte, nous-mêmes, Français du XXIe siècle, on est hyper imprégnés de la culture grecque. ne serait-ce que notre enseignement universitaire, on va dans des grands amphis pour écouter quelqu'un qui est un sachant, d'accord ? C'est la culture grecque, c'est l'aéropage, c'est Socrate, c'est les grands philosophes, d'accord ? Donc, ce sont des Grecs, et chez les Grecs, eh bien, il y avait des relations de nature maître-disciple. Hein ? Par exemple, Socrate était le maître de Platon, le maître d'Aristote, etc. Et il y a toute une succession de maîtres et de disciples, c'était la culture. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a vu dans les premiers chapitres des Corinthiens qu'à un moment donné, il y en a qui disaient « Moi, je suis Paul, moi, je suis d'Apollos », parce que naturellement, par leur contexte, ils adhéraient à quelqu'un. Et moi, je suis de Christ. Et moi, je suis de Céphas. Donc, il faut bien comprendre cette culture. Et il faut comprendre la pensée aussi. Dans la pensée grecque, par exemple, c'est Platon qui avait initié ça. Eh bien, le corps est un obstacle à l'épanouissement de l'âme. Il y a une espèce de dichotomie entre le corps et l'âme. Donc, tout ce qui est intellectuel, l'âme, la tête, la réflexion, c'est noble, c'est grand. Et le corps, c'est un obstacle. Ça limite l'âme. Hein? Platon même parle de le corps est le tombeau de l'âme. Vous voyez, c'est très fort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette dichotomie, on la retrouve dans des hérésies postérieures. Par exemple, le gnosticisme. Vous avez entendu parler de la gnose, le gnosticisme, eh bien, que Paul dénonce dans les Colossiens. Eh bien, le gnosticisme qui s'est répandu au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, eh bien, c'est un mouvement de pensée pareil, centré sur la connaissance de l'esprit. Hein, la connaissance, la surconnaissance, l'initiation, il y a quelque chose de supérieur, donc beaucoup d'intellect, au détriment du corps qui est une prison pour l'âme et qui empêche les gens d'atteindre cette connaissance. D'accord? Donc, les gnostiques même disaient qu'il y avait cette dualité, qu'il y avait deux dieux, en fait. Il y avait un dieu qui avait créé l'âme, qui était un dieu bon, qui avait transmis la connaissance à l'homme, et un dieu mauvais, un dieu inférieur, qui avait créé le corps et qui emprisonnait l'âme. Alors, c'est très important aussi à comprendre ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire un étalage de science. C'est parce qu'aujourd'hui, on vit dans le transhumanisme. Vous avez entendu parler du transhumanisme, l'augmenté, etc. On vit une résurgence, un espèce de néognosticisme sans nous en apercevoir. Donc, je ferai peut-être un message prochainement là-dessus pour bien comprendre les enjeux de notre attention. On veut capter notre attention, on veut détourner notre attention en fait, de l'essentiel qui est Jésus-Christ. Voilà le contexte dans lequel les Corinthiens, c'est pour ça que Pornéia, ben pour eux, c'était tranquille, le corps n'a pas d'importance, l'âme, c'est ce qui compte, l'intellect, etc. Ils pensaient, ils discouraient, ils philosophaient. Hein. Souvenez-vous, acte 17, Paul à Athènes, ils faisaient à l'aéropage, ils aimaient bien discourir, les Athéniens, ils s'en fichaient du corps, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient, et donc Pornéia, pour eux, ce n'était pas important. Hein. C'est pour ça que Paul va saisir ce contexte corinthien. Hein. Corinthien était écrit après Thessaloniciens, apparemment, il ne l'a pas fait à Thessalonique, mais pour les Corinthiens, il fait cette mise au point, vous verrez qu'elle est très utile pour nous. Voilà. Alors, on pouvait s'adonner, donc, chez les Grecs, à la prostitution, à l'homosexualité, c'était quasiment la normalité. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un peu de débauche, chez les Grecs, c'était encore pire. Par contre, il y avait une espèce de pseudo-morale, et les relations incestueuses, elles étaient condamnées, perverses et haïssables, chez les Grecs, chez les Romains. Par exemple, les Grecs, ils n'aimaient pas du tout l'histoire d'Œdipe. Vous avez entendu parler d'Œdipe, hein, via le complexe. Hein. Je ne m'étends pas là-dessus, mais ils n'aimaient pas l'histoire d'Œdipe parce que c'était moralement répréhensible pour eux. Donc, l'inceste était un peu banni, c'était interdit. Hein. Ils étaient débauchés d'un côté, mais l'inceste, on ne touche pas à la famille. L'inceste, c'est les parents proches, mais aussi la belle-mère, le beau-père, etc. Toutes ces relations. Et même chez les Romains, une personne prise en flagrant délit d'inceste était bannie à vie sur une île. On l'exilait sur une île. Vous voyez, donc c'était assez sérieux. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre la violence avec laquelle Paul va utiliser ces mots pour reprendre les Corinthiens. Mais souvenez-vous, Ruben, qui était l'aîné, aurait dû recevoir la bénédiction, il avait été privé de la bénédiction parce qu'il a couché avec la femme de son. La seule exception d'inceste dans l'Ancien Testament, c'était la loi du Lévira. Vous savez, quand il y a un frère qui épouse une femme, si le frère meurt, la femme doit épouser le frère pour lui donner une descendance et l'aîné va porter le nom du frère. C'est la seule exception. D'accord ? Voilà. Donc, ce contexte de culture grecque est important à comprendre pour comprendre ce texte. D'accord ? Deuxième contexte, c'est le contexte historique. Le contexte historique, on peut se poser la question, est-ce que ça s'adresse aux Corinthiens ou est-ce que ça s'adresse à nous aussi ? On verra que nous aussi, on a plein d'applications de ce texte. Et puis, le troisième contexte, c'est le contexte littéraire. C'est-à-dire, quelle est la place de ce sujet, finalement, dans le texte. On aborde une nouvelle partie dans l'Épître aux Corinthiens, qui est la partie qui concerne... Paul va faire un certain nombre de mises au point. L'Épître aux Corinthiens, il a commencé par féliciter l'Église, il y a toujours des salutations, il félicite l'Église, et puis, après les salutations, il dit que l'Église a été bénie de tous les dons. Et pourtant, il y a des tensions et des divisions. D'accord ? Il essaye d'adresser ce problème. Pourquoi est-ce qu'il y a des tensions et des divisions ? Eh bien, la racine, c'est un problème de sagesse et un problème d'autorité. D'accord ? Il pose la question, quelle est la vraie sagesse ? Il oppose la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Et il dit, la prédication de la croix, sagesse de Dieu, est une folie aux yeux du monde. Et puis, il va recentrer ensuite sur qui a autorité. Et l'autorité, c'est la croix de Christ, qui est une folie aux yeux du monde. Et puis, il va parler aussi d'autorité déléguée. Il va dire que les chrétiens, notamment les Corinthiens, sont des délégués, des serviteurs, des intendants, qui un jour devront rendre compte. Et c'est là qu'il va dire cette phrase importante qu'on va revoir aujourd'hui, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. D'accord ? Donc, la notion de sagesse et d'autorité. Et à la fin de cette première partie, donc à la fin du chapitre 4, Paul va rappeler son autorité. Il va dire, préférez-vous que je vienne avec un cœur plein d'amour et de douceur ou avec un bâton ? Pourquoi ? Parce que l'autorité de Paul était contestée. Les Corinthiens, en fait, ils avaient du mal à se soumettre à l'autorité de Paul. Ils contestaient Paul parce qu'il était petit, parce qu'il parlait comme ci, comme ça, il parlait de la folie de la croix, il n'était pas comme la culture grecque, etc. Donc, ils avaient du mal à se soumettre à l'autorité de Paul. Et quand on a du mal à se soumettre à une autorité, en général, c'est un peu comme la confiance. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas confiance dans les autres, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Eh bien, quelqu'un qui a du mal à se soumettre à une autorité, c'est souvent quelqu'un qui a du mal aussi à exercer l'autorité. C'est pour ça que les premiers chapitres du Corinthiens, on voit qu'il y a un problème d'autorité, de contestation de l'apôtre Paul, qui est obligé de se défendre et qui dit, c'est puissant comme terme, préférez-vous que je vienne avec vous avec un cœur plein d'amour et de douceur ou avec un bâton. C'est dur, Il est obligé de faire claquer un peu les galons. Je suis apôtre, etc. C'est moi qui vous ai engendré. Donc, ce problème d'autorité, c'est un problème qu'on va retrouver. Donc, et c'est pour ça que Paul va démarrer ce chapitre 5 où il va aborder toutes ces questions pratiques qui peuvent causer du trouble et des tensions. C'est ça le problème des Corinthiens. Les Corinthiens, ils avaient des troubles et des tensions. Ils étaient bénis, ils avaient tous les dons, mais il y avait des troubles et des tensions. Et Paul, en chirurgien, en ostéopathe, c'est un ostéopathe d'Église, Paul, eh bien, il a détecté que le trouble et les tensions venaient d'un problème de sagesse et d'autorité. Donc, il fait toute une théologie sur la sagesse et l'autorité dans les premiers chapitres, et là, il va aborder les problèmes pratiques. Il va citer un exemple de pornéa le plus fort, qui est le problème d'inceste. Ensuite, il va revenir sur le pornéa, il va revenir sur le procès entre chrétiens, il va revenir sur les questions conjugales, mariage, divorce, célibat. Bon courage à celui qui fera aussi le sujet, parce que c'est un sujet pas facile. D'accord ? Il va revenir sur l'idolâtrie, les viandes sacrifiées aux idoles, il va prendre l'exemple d'Israël, il va revenir sur la manière de prendre le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11, sur la différenciation homme-femme, le problème du voile, les dons spirituels, l'amour, 1 Corinthiens 13, la résurrection, 1 Corinthiens 15. Voilà, je vous ai brossé un peu, très rapidement, le panorama de cette lettre aux Corinthiens. Alors, on va essayer de voir, finalement, au vu de tout ce que je vous ai dit, le thème clé. Eh bien, le thème clé de ce passage, je vais vous le donner, c'est un peu comme au niveau, on connaît avant la fin, on connaît le thème, ça vous aidera peut-être à bien suivre le texte. Eh bien, le thème ici de ce passage, c'est vraiment le thème de l'autorité. Et l'autorité dans l'Église, qui est un thème extrêmement important, parce que finalement, aujourd'hui, il y a pas mal d'églises qui connaissent des tensions et des difficultés, et c'est souvent des problèmes d'autorité qui causent ces problèmes d'église. Donc finalement, Corinthe, c'est une église qui ressemble à n'importe quelle église du monde actuel. Et en plus, je l'ai dit, on est un peu pétri de la culture grecque. Voilà. Et donc, ayant compris que c'est un problème d'autorité, on va essayer de suivre la pensée de l'apôtre Paul. Alors, le temps avance. Ce que dit le texte, je voulais essayer de vous faire un petit fil rouge. La compréhension globale n'est pas très difficile. Hein. Il va présenter le problème, chapitre 1 et 2. Hein. Et donc, le problème, c'est une désobéissance à la loi. L'inceste était condamné aussi par la Bible, hein. Lévitique 18, Deutéronome 23. Vous retrouverez ces textes, on n'a pas le temps de les lire. Mais il y a un problème de désobéissance à la loi. Le deuxième problème que Paul rencontre, c'est la durée et le colportage. C'est-à-dire que il y avait, certes, une désobéissance, mais ça faisait un moment que ça durait. Et en plus, ça se savait. C'est ce que dit Paul dans les premiers chapitres. Hein. Tout le monde en parle. D'accord? Donc ça veut dire que les ragots, ils vont bon train. Ça veut dire que ça dure depuis un moment et rien ne se passe. On entend dire partout. D'accord? Et le troisième problème qui va avec, hein, premier problème, désobéissance. Deuxième problème, ça durait et ça a été colporté. Troisième problème, il y avait une complète inconscience des Corinthiens et ils s'en vantaient en plus. Vous êtes enflés d'orgueil, ils leur disent. Alors que vous devriez mener le deuil. Vous voyez le paradoxe. Donc, triple problème. Et puis, ensuite, il va introduire ce mot porneia. Donc, cinq fois, on le voit dans ce passage. Et il va réinsister deux fois sur le porneia. Alors, c'est quoi le porneia? Ce terme grec qui veut dire, c'est tout ce qui est relation sexuelle en dehors du cadre prévu par Dieu, c'est-à-dire le mariage. Donc, ça comprend plein de choses. 25 fois, quand même, porneia dans le Nouveau Testament. C'est pas rien. Ça veut dire que c'est un sujet important. Et nous vivons une époque où ce terme est désuet. C'est-à-dire que si je devais donner les exemples de Bill Hybels et de la Convention Baptiste, si je le donnais lors d'une rave party, par exemple, ça passerait complètement dans l'anonymat. Les gens diraient, mais c'est normal, tu délires complètement, mon pote, aujourd'hui, ça se fait tous les jours. Bon. Voilà. Alors, le porneia, c'est quoi? C'est vivre et coucher ensemble sans être marié. C'est l'adultère. Donc, je ne fais pas un dessin. C'est l'homosexualité, c'est l'inceste, c'est, selon aussi le Nouveau Testament, celui qui répudie son conjoint et qui épouse un autre conjoint. Ça s'appelle adultère, c'est comme on le dit, c'est la Bible. Et puis, c'est la zoophilie. Alors, zoophilie, c'est relation sexuelle avec un animal. Je me souviens, quand j'étais à l'école vétérinaire, on recevait un jour, on a reçu une patiente, une dame d'un certain âge qui avait un tout petit chien. Et voilà, je vous fais pas un dessin, mais zoophilie, quoi. C'est une dame célibataire âgée qui avait un petit chien, zoophilie. Bon, vous pensez que ça n'existe pas? Si, ça existe, et puis il y en a plein. Bon, voilà, ça fait partie de tout ce qui est porneia, la perversité, etc. Alors, faut pas que je le dise trop fort, parce que aujourd'hui, les paroles pourraient être mal interprétées. Donc, peut-être faudra couper, Guy, si tu m'entends, il faudra couper peut-être cette partie-là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est désuet à l'époque à laquelle nous vivons, mais par rapport à la parole de Dieu, c'est la parole en parle. Alors, il y a différentes traductions pour ce mot. Il y a le mot inconduite, débauche. Ça, c'est la NEG, Nouvelle Édition de Genève 79. La Nouvelle Bible en français courant parle de débauche. Alors, débauche, c'est un mot qui n'est pas très clair parce qu'on dit, on a mis une débauche de moyens pour sauver l'économie française. Donc, le mot est un peu galvaudé. D'accord, mais bon, inconduite pour la colombe. Second 1910 parle d'impudicité, ça c'est un peu vieillot. Second 21, immoralité sexuelle. Nouvelle Bible, second, inconduite sexuelle. Le semeur parle d'immoralité. La parole vivante parle d'immoralité. Et d'ailleurs, les deux termes au début de l'épître aux Corinthiens, là, au début du chapitre 5, parole vivante, en fait, traduit deux mots exactement identiques par deux mots différents. Il parle d'immoralité et inconduite. Je sais pas pourquoi. Et puis, Chouraki, qui est toujours excessif, André Chouraki parle de puterie, d'accord? Et puterie, c'est un terme moyenâgeux, d'accord? Mais tout ça, ça décrit le pornéia, voilà. Donc, alors de quoi il s'agit, là? Ben, il y a un inceste, c'est-à-dire qu'on a un membre d'église qui est en couple avec sa belle-mère. Et probablement, la belle-mère est chrétienne, hein, sinon Paul reprendrait la belle-mère aussi. Mais comme la belle-mère n'en parle pas, on peut penser que la belle-mère est non chrétienne, et c'est pas les affaires de Paul. D'ailleurs, il le dit à la fin, occupez-vous de l'église, Dieu s'occupera du dehors. Et donc, la position de Paul est très ferme, il a déjà juge au nom du Seigneur Jésus. Il prononce la sentence et il va donner des recommandations. Le sens de tout ça, eh bien, c'est préserver l'Église. Et là, il va utiliser une métaphore, hein, qu'on verra tout à l'heure, qui est la métaphore du levain et de la Pâque. Alors, c'est bizarre qu'il utilise cette métaphore, parce qu'il s'adresse à des Grecs qui n'ont jamais pratiqué la Pâque, mais cette métaphore, elle est parlante, et c'est là qu'on se dit, ben, probablement, cette lettre aux Corinthiens n'est pas adressée aux Corinthiens, elle est adressée à l'Église de tous les temps, et des gens qui sont capables de comprendre le symbole de la Pâque. Voilà, qui va donner des recommandations. Hein. Il va terminer sur une recommandation très forte, « Chassez le méchant du milieu de vous ». Ça, c'est ce que dit le texte. Hein. Donc là, je viens de faire ce qu'on appelle une exégèse du texte. D'accord ? Donc, on va passer maintenant à... Ça vous donne un fil rouge, effectivement. Alors, on va passer à quatre remarques d'interprétation. Je vois que le temps passe. Et alors, première remarque, première interprétation, c'est la prise de conscience. On a vu que les Corinthiens n'étaient pas du tout conscients. Parfois, on peut avoir dans l'Église des cas où on n'en est pas conscient, parce qu'en général, les gens ne l'étalent pas. Donc, il faut prendre conscience et mener le deuil. Certaines versions disent « soyez affligés ». C'est-à-dire, c'est un sujet de tristesse. C'est un sujet d'affliction, c'est un sujet d'humiliation. D'accord ? On voit que les Israélites, dans l'Ancien Testament, ils s'humiliaient, pleuraient, ils prenaient le sac et la cendre. Hein, les rois, par exemple, qui prenaient conscience de leur péché, ils s'humiliaient, ils déchiraient leurs vêtements. Donc, il y a vraiment une urgence de l'action. Prenez conscience et menez deuil. Paul nomme le péché, c'est porneia. Donc, le péché doit être nommé. C'est pas une fois par an, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, et puis pendant que tu y es, les péchés de tous les membres de l'Église, et pendant que tu y es, les péchés du monde entier. Voilà, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nommer le péché, et il nous demande de venir à lui pour le déposer. Deuxièmement, Paul demande de prendre deuil. C'est cette notion de contrition, parce que le péché est grave aux yeux de Dieu. Et en particulier, ce péché d'inceste est grave aux yeux de Dieu. Et Paul va souligner la légèreté des Corinthiens face à la gravité des péchés. Parce qu'il va le dire, mais même les nations, il leur dit ça, hein, il leur dit, vous vous rendez compte, même les nations condamnent l'inceste. Les Romains exilaient à vie sur une île les gens qui commettaient l'inceste. Et les Corinthiens, ils étaient là, tranquilles, cool, lunettes de soleil, et tout va bien. On a le frère là, pas de problème, il se balade. Mais il y a des églises qui sont comme ça. Il y a des églises où il y a des gens qui vont, qui viennent, des couples qui se font, qui se défont, et les gens disent rien. Et Paul va nous dire, dans la puissance de Christ, il s'appuie sur la puissance du Christ. Ça veut dire que la discipline, c'est pas une discipline, c'est pas la discipline du monde, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'on a offensé Dieu, et c'est pour ça qu'il s'appuie sur la puissance de Christ. Hein, par la puissance de Christ, il va urger aussi les Corinthiens, c'est-à-dire en gros, la prochaine fois que vous serez réunis, il leur dit immédiatement, il faut que vous statuiez ça. Sans attendre, il y a urgence. Pourquoi il y a urgence ? Parce qu'il y a une notion d'exemplarité. L'Église, c'est l'épouse du Christ, c'est le représentant de Dieu sur terre, et à un moment donné, ben, les nations, même les autres, voient qu'il y a un cas d'inceste dans l'Église. C'est quelque chose qui est condamné même par les païens, et l'Église, elle fait ça. Donc, il ne faut pas non plus être pire encore que les païens. Et parfois, on voit, enfin, quand on voit l'exemple de Bill Hybels, hein, ça n'enlève rien à la qualité de son enseignement. Ce qu'il a écrit, voilà, il a été inspiré, mais quand on voit cet exemple qui a duré depuis des années et des années, qui a été masqué et étouffé, c'est désolant. Hein. C'est le péché haïssable, mais il faut aimer le pécheur. Mais ça peut m'arriver à moi aussi. Je peux tomber n'importe quand et n'importe qui d'ici présent peut tomber. N'importe qui peut tomber là-dessus. Il faut être très, très vigilant. D'accord ? Donc, premièrement, prenez conscience et menez deuil. C'est la contrition, c'est l'humiliation, c'est la confession. C'est la seule manière de commencer un travail de restauration. Deuxièmement, Paul juge le péché. Et ça, c'est la nature de l'action. Le premier point, c'est l'urgence de l'action. Le deuxième point, c'est la nature de l'action. Juger le péché de manière radicale. Alors, vous allez me dire, mais Pierre, dans Matthieu, chapitre 7, verset 1, serment sur la montagne, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ben oui, c'est vrai. Mais Jésus dit, ne jugez pas, c'est-à-dire que Jésus nous demande de juger le péché, via l'apôtre Paul, mais En Matthieu 7,1, c'est plutôt les motivations. Ne jugez pas les motivations des autres. Vous voyez un comportement, ne jugez pas le comportement. Moi qui vous parle, c'est un de mes gros défauts. J'ai tendance à juger. Il faut vraiment que le Seigneur me reprenne, parce que j'ai tendance à juger les autres. Et je lui confesse ça, parce que c'est vraiment une tendance, voilà, une construction, je suis construit comme ça. D'accord, ça fait partie de mon profil. Et voilà, moi qui vous en parle, c'est juger les motivations. C'est ça que nous dit Matthieu 7,1. Ne pas juger non plus le ministère. C'est leur dire à ne juger de rien avant longtemps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans le ténèbres et qui révélera les desseins des cœurs. Alors tout le monde, chacun recevra la louange qui lui est due. Donc c'est le Seigneur qui, à un moment donné, va mettre tout ça au clair. Mais vous, ne jugez pas. Nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est de juger le péché. D'accord ? Et c'est pas facile de juger le péché. Parce que quand on est responsable, quand on est ancien d'église, qu'on a une nature bienveillante, et qu'on a envie d'aimer son prochain, qu'on a une nature empathique, bienveillante, c'est pas facile d'aller voir un frère et de juger le péché. Parce qu'on n'a pas envie de le froisser, on a peur de sa réaction, on a peur qu'il quitte l'église, enfin, on se fait des films. C'est pas facile de parler avec amour et vérité. Plusieurs années de suite, j'ai donné un enseignement lors du congrès KF sur dire les choses avec amour et vérité. Et bien loin de moi de donner des recettes, surtout je posais le problème et je disais, mais combien c'est difficile pour certaines natures de juger le péché. D'accord ? Donc là, ce que Paul demande, c'est de juger le péché lors d'une assemblée plénière. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et là, si on veut vraiment comprendre, sortir de cette radicalité du chapitre 5, il faut revenir bien sûr au texte de référence, hein, le livre de chevet de l'ancien, qui est Matthieu 18. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Je ne vais pas citer dessus parce que j'ai déjà fait un message dessus, mais va, reprends-le seul à seul, première étape. S'il ne t'écoute pas, va chercher un frère, afin que tout ça se passe en présence de deux ou trois témoins. S'il n'écoute pas ton frère, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Relisez Matthieu 18. C'est la base. Donc, Paul, il s'appuie indirectement sur ce texte, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que probablement, comme tout le monde est au courant, soit les gens, ils n'ont rien fait du tout, et à ce moment-là, il y a un cas tellement grave qu'il faut radicalement couper, il y a un cancer qui ronge, ou alors peut-être que les Corinthiens ont essayé de faire Matthieu 18 et que ça n'a pas marché, et on en est au stade de dis-le à l'Église. Donc là, il faut réunir l'Église et décider peut-être d'une exclusion. Donc, revoyez Matthieu 18, parce que c'est vraiment le livre de chevet de l'ancien qui exerce sa discipline. J'ai des cas concrets avec lesquels je peux vous dire, Dieu est bon, parce que s'il a mis ça dans sa parole, ça marche. Même quand on arrive au stade de l'église, ça m'est arrivé d'arriver au stade de l'église, on m'a exclu un frère. Et il n'est jamais revenu. Mais il faut aller jusque-là, parce qu'on verra les conséquences. Donc, Paul est extrêmement radical. Verset 2, ôtez le méchant du milieu de vous. Verset 5, livrez à Satan. Verset 7, purifiez-vous du vieux levain. Verset 13, expulsez le méchant du milieu de vous. Donc Paul est extrêmement radical. Pourquoi ? Parce que le péché est dangereux et grave. Juger le péché, il y a trois expressions qui posent problème. Alors, livrez à Satan. Je ne vais pas vous dire toute la litanie. C'est des termes qui sont difficiles. Il y a livrer à Satan, destruction de la chair et sauver au jour du Seigneur. D'accord ? J'ai pas le temps de passer du temps là-dessus, de vous dire qu'un tel a dit ça, un tel a dit ça. Je vais vous faire une synthèse rapide, personnelle, de mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Et si vous voulez plus de références, je vous donnerai les auteurs qui ont dit ça et ça et ça. Ok ? Vous faites comme ça ? Ok. Alors, livrer à Satan, c'est pas juste, ça y est, je l'attache, Satan, débrouille-toi, tue-le, mets-lui des baffes, etc. C'est pas du tout ça. On considère que ce frère, c'est exactement comme la fin de Matthieu 18. C'est-à-dire que s'il refuse d'écouter, ça veut dire que probablement il n'est pas converti. Donc, il est un païen. On va l'exclure, on l'envoie dans le monde. Quand il est dans le monde, comme il est plus en communion avec le Seigneur et plus en communion avec les membres, eh bien, on le considère comme étant en fait dans la sphère d'influence de Satan. Donc, quand il parle d'excommunication, c'est pas l'Église catholique qui excommunie. Hein. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que c'est pas l'Église qui donne le salut. D'accord ? Le salut, c'est Jésus qui le donne. Donc, on ne peut pas enlever le salut à quelqu'un à qui on n'a pas donné. D'accord ? Jésus s'occupe du salut. Nous, ce qu'il nous demande, enfin, ce qu'il demande aux Corinthiens, c'est de le considérer comme étant dans la sphère d'influence de Satan. Considère-le comme un païen et un péager, nous dit Matthieu 18. C'est-à-dire, il est livré dans la sphère de Satan, qui est le monde, d'accord ? Satan est la prince, est le prince de ce monde. Ça veut dire que Satan, éventuellement, peut le tourmenter. D'accord ? Par exemple, quand il dit dans 1 Corinthiens 11, si vous prenez la scène d'indignement, c'est pour ça qu'il y en a un certain nombre qui sont malades ou qui sont morts. Si on prend la scène d'indignement, ben, on n'est pas en communion avec le Seigneur, donc Satan peut éventuellement nous tourmenter. Mais si Dieu permet que Satan nous tourmente, peut-être que ça peut permettre de faire souffrir quelqu'un pour le faire revenir. C'est ça qu'il veut dire, en fait. Livre-le à Satan, c'est considère qu'il est dans la sphère des gens à évangéliser et parle-lui comme si tu devais l'évangéliser, pas comme un frère. Voilà ce que ça veut dire, en fait. C'est mon interprétation. Le but, c'est d'évangéliser, c'est de le faire passer des ténèbres à la lumière. C'est pas du tout d'être méchant avec lui, de le mépriser, etc. C'est de considérer qu'il a besoin d'être évangélisé au même titre que n'importe quelle autre personne dans le monde qui connaît pas le Seigneur et qui a besoin d'apprendre la parole du salut. C'est pour ça que Paul est à la fois radical, mais il dit à la fin du chapitre 4, est-ce que vous voulez que je vienne avec un bâton ou avec un cœur plein d'amour ? Et en fait, l'apôtre Paul, il a un cœur plein d'amour, on le voit partout ailleurs. Donc c'est pas quelqu'un qui est dur, mais par contre, il est dur et radical. Vous voyez, cet équilibre que Jésus avait, il pouvait pleurer avec Lazare et Marie, enfin, avec Marthe et Marie dans la mort de Lazare, il pouvait également chasser les marchands du temple. C'est cet équilibre tellement difficile à trouver qu'on a du mal, nous, à trouver. Il faut vraiment demander au Seigneur qu'il nous aide à être à la fois plein d'amour et aussi radical et ferme quand il s'agit de ce genre de choses. D'accord ? La destruction de la chair ou la nature pécheresse, pareil. Hein, c'est probablement les notions de souffrance physique. C'est-à-dire que la vieille nature, elle a besoin d'être crucifiée. Donc, ce frère-là, il avait encore une vieille nature qui prenait trop de place. D'accord ? Et cette vieille nature devait être détruite et par l'exclusion de la personne à l'extérieur de la sphère, eh bien, ça permet à Satan de titiller la personne. Satan, peut-être, il est pour quelque chose, Dieu permet, on ne sait pas bien. Hein, c'est un peu comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il n'a pas été chassé, mais à un moment donné, il est parti de lui-même. Il s'est exclu, il s'est mis dans une sphère où il est arrivé, il est descendu au fond du trou. Et c'est parce qu'il souffrait au fond du trou qu'à un moment donné, il a décidé de se lever. Et probablement, ce que Paul dit ici, c'est qu'il faut permettre que ce frère, qui est digne d'être aimé, ce frère connaisse ça pour qu'à un moment donné, il revienne. Vous savez quoi ? J'ai une bonne nouvelle. Si vous avez lu 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, chapitre 2 et chapitre 7, à partir du verset 10.
Paul parle de tristesse selon le monde et tristesse selon Dieu. Et il parle probablement de ce frère. Parce que la tristesse de Dieu a produit chez ce frère une repentance qui mène à sa vie. Et il est vraisemblable que dans 2 Corinthiens, on voit ce frère qui est revenu. C'est mon interprétation, encore une fois, mais ça a porté ses fruits. Vous voyez, donc, l'apôtre Paul, qui est plein d'amour et qui est radical, et qui dit ça aux Corinthiens, les Corinthiens ont mis en pratique, le frère a été exclu, probablement il est revenu. Troisième point qui est difficile à comprendre, sauver, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, là aussi, d'abord, il n'est pas dit son esprit soit sauvé, il est dit l'esprit soit sauvé. D'accord ? Dans le texte grec, il parle de l'esprit du Saint-Esprit. D'accord ? Donc, vraisemblablement ici, il est parlé de l'esprit de l'Église. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est la pureté de l'Église. Vous savez, le Saint-Esprit, il habite, le Saint-Esprit est saint, parce que c'est le Saint-Esprit. Il habite dans une Église qui doit être sainte, même si elle n'est pas sainte. Donc, à un moment donné, quand elle n'est pas sainte, le Saint-Esprit, il est mal, quoi. On peut l'attrister. Donc, le Saint-Esprit est attristé. Le but de l'exclusion, c'est aussi pour que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire que le jour où le Seigneur va revenir, l'Esprit, l'Église qui va être enlevée avec l'Esprit, à la rencontre du Seigneur, voilà, tout ça, ça doit être pur. Donc, le but, c'est la pureté de l'Église. C'est ça, le but de Paul. C'est pas de faire mal à un frère, c'est la pureté du corps et la pureté de l'Église, parce que ça a une valeur tellement noble il y a ce parallèle entre le mariage et le mariage humain et le mariage entre Christ et l'Église qui, voilà, c'est quelque chose de supérieur, de noble. Voilà probablement afin que l'esprit soit sauvé au nom du Seigneur. J'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, on peut en discuter si vous voulez, mais c'est des versets qui sont difficiles à interpréter. Purger le péché, après avoir vu l'urgence de l'action, après avoir vu la nature de l'action, eh bien, le troisième point, c'est pourquoi, le pourquoi de l'action. Là, ça mériterait un développement, j'ai pas le temps de le faire. Donc, juste Paul, pour bien faire comprendre son propos et la dureté de son propos, eh bien, Paul va utiliser une métaphore que nous connaissons bien, c'est la métaphore de la Pâque et du levain. Et vous savez, c'est quoi le levain dans la Bible? Ben, c'est le symbole du mal et du péché. D'accord? C'est-à-dire que le levain, c'est quelque chose de petit et d'insignifiant, et c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, un tout petit peu de levain, ça fait lever toute la pâte. D'accord? Donc, il va comparer le levain, il fait une métaphore pour aider les Corinthiens à comprendre entre le levain et, enfin, la puissance du levain et la puissance du péché. Il leur dit, en gros, attention, parce que si vous tolérez le moindre petit truc, ça va exploser. Hein, vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez un peu de levain dans la pâte, vous laissez monter la nuit, vous en retrouvez plein partout. Donc, le levain, c'est le symbole du péché. Donc, il faudrait revenir à la parabole du levain, Matthieu 13, d'accord? Et puis Jésus qui met en garde aussi les disciples, gardez-vous du levain des pharisiens, du levain d'Hérode, d'accord? Donc, c'est l'enseignement. Hein, il met en garde les disciples, attention, parce que les erreurs doctrinales, les minimes, peuvent entraîner des grandes conséquences. C'est la notion de petit, d'accord, face à l'immensité des conséquences. D'accord? Donc, le symbole de la Pâque, c'est l'agneau pascal sacrifié, on met du sang sur les linteaux. C'est ça qui fait cette métaphore. Il rappelle encore une fois, il retourne à Jésus-Christ. Cette Pâque qui s'est pleinement accomplie en Christ, lui qui était sans péché, sans levain. L'agneau sans défaut qui enlève le péché du monde et dont le sang protège de l'ange destructeur. Voilà. Et il dit aux Corinthiens, en gros, eh bien, purgez le péché, sinon le levain va corrompre toute l'assemblée. Si vous ramenez dans une assemblée un couple, par exemple, qui vit ensemble, non marié, et tout le monde le sait, les gens vont regarder, vont dire, tiens, eux, ils le font, on leur dit rien, pourquoi pas nous? Puis ça va très vite après. Le quatrième point, donc purger le péché, et quatrième point, garder le jugement pour l'Église. En gros, il leur dit, occupez-vous de l'Église, occupez-vous pas du reste du monde. Il faudrait dire aussi, en parallèle, qu'il condamne dans le même sac l'inceste, mais aussi il y a la soif de posséder, il y a le vol, il y a un certain nombre d'autres péchés qui peuvent corrompre l'Église. Hein. Donc, vous voyez ça, les cupides, donc les soifs de posséder, les accapareurs, les idolâtres, tous ceux qui sont idolâtres, etc. Et il leur dit de ne pas avoir de relation avec ces gens-là. Alors, ne pas avoir de relation, c'est pas rentrer dans la vie monacale, c'est ne pas avoir de relation, de communion proche avec ces gens-là qui sont comme des païens. Ayez des relations d'amour et d'évangélisation, mais pas de communion proche. D'accord? Donc, quatre recommandations, hein, je répète. Première recommandation, l'urgence de l'action, menez deuil et prenez conscience. Deuxième recommandation, c'est la nature de l'action, il faut juger radicalement. La troisième recommandation, c'est pourquoi le faire, le sens de l'action, purger le péché, parce que ça risque d'exploser dans l'Église. Et quatrième recommandation, gardez le jugement dans l'Église. Occupez-vous de l'Église, ne vous occupez pas de juger le monde. C'est pas à nous d'être moralisateurs. On n'a pas à aller s'occuper de dire un tel, un machin, etc. Il y a déjà assez à faire dans l'Église. Alors, application pour les Corinthiens. Je vais assez vite. Gravité du péché, je l'ai déjà dit. Il y a des risques. Quels sont les risques pour les Corinthiens? Premièrement, il y a un risque pour le pécheur. C'est-à-dire que, à un moment donné, s'il se repent pas, alors je vous dis la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est repenti, mais s'il se repent pas, il y a un risque pour lui, il y a un risque de salut. Ensuite, il y a un deuxième risque, c'est un risque pour l'Église. Je l'ai déjà dit. Premièrement, l'Église peut exploser à cause de ça, et en plus, l'Église est discréditée. D'accord? Souvenez-vous de la citation de Gandhi. Gandhi, il a dit, la seule chose qui m'empêcherait d'être chrétien, c'est justement les chrétiens eux-mêmes. C'est le comportement des chrétiens. Donc, il y a un risque pour le monde, et aujourd'hui, on entend régulièrement des témoignages des gens qui ne peuvent pas venir à Dieu, parce qu'ils voient tellement de mauvais exemples qu'ils n'ont pas envie de venir. Troisième risque, il y a un risque pour l'apôtre Paul. Paul est le père spirituel, Et à un moment donné, il peut être discrédité, Paul, quand il revient à Jérusalem, il rencontre aux frères de l'église de Jérusalem, qui peuvent lui dire, attends, qu'est-ce que tu fais à Corinthe? Et il est un peu responsable, quand même. Donc, il y a un risque pour Paul, et c'est pour ça que Paul prend un langage radical. Et puis, il y a un risque vis-à-vis des autorités, hein, je vous ai dit, l'inceste est condamné par les autorités de l'époque. Et puis, le cinquième risque, c'est David qui le verra, c'est le risque de la pornéia est un esclavage, c'est quelque chose de terrible. Et puis, quatrième point, c'est qu'il faut être radical, chasser le méchant du milieu de vous. Et Dieu bénit l'obéissance et l'engagement. Je vous ai dit que ce frère, 2 Corinthiens 2, 5, 11, vous lirez le texte, le frère s'est converti. Alors, l'application pour nous, c'est ça le plus intéressant. Eh bien, l'application, c'est l'autorité dans l'Église. Donc, je vous l'ai déjà dit, l'autorité dans l'Église, elle est régie par Matthieu, chapitre 18. Il y a des états, et s'il y a des choses à faire, il faut bien connaître ce texte. Ça me paraît indispensable. Ensuite, il y a la notion de membre. Pour être membre de l'Église, on n'est pas membre parce qu'on est ancien, ça fait longtemps qu'on est dans l'Église. On n'est pas membre parce qu'on donne une grosse dîme. On n'est pas membre parce qu'on sert beaucoup dans l'Église. On est membre parce qu'on respecte l'autorité et parce qu'on est soumis aux anciens. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit « Soyez soumis aux anciens ». Parce que les anciens sont en charge de l'autorité. Hein, c'est une autorité déléguée. Hein, c'est Dieu qui délègue à Jésus-Christ, qui délègue aux anciens. D'accord ? Donc, ils devront rendre compte, l'apôtre Pierre. Donc, s'ils ne connaissent pas Matthieu 18, ils devront rendre compte aussi. Troisième application pour nous, c'est un texte qui est transposable pour moi à toute congrégation, pas seulement l'Église, et en particulier, ça marche dans la famille. Donc, transposons les anciens et l'Église en chef de famille, autorité spirituelle dans la famille et les enfants. C'est un texte qui marche aussi dans ce sens-là. Quatrième application pour nous, le péché est grave dans l'Église, il est grave dans la famille. Et en particulier, l'immoralité sexuelle. Donc, je vous ferai grâce de la statistique actuelle. Je vous ai cité l'exemple des visionnages de sites pornographiques. Aujourd'hui, on considère qu'il y a peut-être entre 20 et 40%, peut-être plus, de chrétiens qui s'adonnent à la pornographie. Ça veut dire que soit notre Église est parfaitement pure, soit des gens sont touchés par ça. Alors, mon but, c'est pas juger, c'est de dire, il y a un moyen, d'accord ? Parce qu'une église, c'est aussi un corps, il y a un moyen, et on en reparlera. Et c'est quelque chose, enfin, je mets un peu les pieds dans le plat, d'accord ? Je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est important, parce que c'est l'immoralité sexuelle, c'est, en fait, c'est un esclavage. C'est un esclavage, et c'est pas en parlant pas, mais on parle pas des choses qui peuvent être utiles parfois. Je dis pas que les autres sont pas utiles, mais parfois, il faut savoir parler des choses utiles. Et je pense que dans l'Église, c'est des courageux, on peut en parler, hein, et parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Et puis, les anciens sont responsables de détecter le vin dans l'Église. Voilà, et ces anciens ont besoin de prière parce que c'est pas facile. Je vous garantis que c'est pas facile, la discipline est difficile. Je vous ai parlé des caractères, il y a des gens qui sont très gentils, très empathiques, et c'est dur pour eux d'aller au charbon. D'accord ? Et c'est indispensable, il faut les aider aussi. Allez, en conclusion, je vous laisse 5 questions. Première question, quand je fais face à un conflit nécessitant discipline, alors que je sois ancien ou que je sois responsable de famille, quand même pas mal que ce soit dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fuis ? Je fais comme si de rien n'était ? Est-ce que je combats ? Je me mets en colère, etc. Ou est-ce que je fais comme Paul ? J'agis dans la puissance du Seigneur Jésus et selon sa parole. Chacun répond. Quand je fais face à un conflit nécessitant discipline. Deuxième question. À votre avis, pour quelles raisons les Corinthiens n'agissaient-ils pas ? Pourquoi ça a traîné comme ça ? Troisième question, je laisserai la diapo affichée. En quoi la discipline d'église est-elle semblable et différente de celle d'éducation des enfants ? Je vous ai dit que vous pouvez transposer, mais il y a quand même des différences. Donc posez-vous la question. Et notamment ceux qui sont et anciens et pères de famille, ça tombe bien, parce que les anciens sont pères de famille. Donc, se posons bien la question. Quatrième question, pourquoi était-il important pour les Corinthiens ? Premièrement, Paul leur dit de mener deuil et s'affliger. Et deuxièmement, d'agir quant au péché du frère. Voilà, je vous laisse. C'est un peu... c'est pas sympa de ma part. Je ne vous donne pas que des réponses, je vous donne des questions. Merci de votre attention.